VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du vendredi 13 novembre 2015. Au sommaire ce soir...
Crise burundaise, l'Union européenne met à l'abri une partie de son personnel diplomatique à Bujumbura.
La République centrafricaine se prépare à accueillir le pape François à la fin de ce mois, mais la violence persiste à travers le pays.
Et Niger, Mahama Amadou doit rentrer demain de son exil en France, mais l'homme politique risque d'être arrêté dès son arrivée.
Absolument, c'est le ministre de l'Intérieur qui a affirmé qu'il sera arrêté dès qu'il mettra pied au Niger.
Les députés maliens ont voté la loi des quotas en faveur des femmes.
Depuis hier qu'on a fini le vote du projet de loi, on a appris que depuis hier de la matinée, il y a des radios islamiques qui s'y étaient déjà à donner de mauvaises informations.
Le visage emblématique du groupe État islamique, maintes fois vu dans des vidéos d'exécution d'otages, a-t-il été tué par la coalition en Syrie ? Washington et Londres hésitent à le confirmer.
Dans moins de 10 minutes, l'économie, football également, le Sénégal accroché, le Cameroun qui est dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, mais d'abord le journal.
L'Union européenne affirme avoir décidé d'évacuer les familles de diplomates et des personnels non essentiels du Burundi après avoir évalué les risques, mais assure que sa délégation continuera de fonctionner normalement. Jacques Aristide.
Une évacuation partielle et temporaire, c'est du moins ce qu'ont indiqué à l'AFP deux responsables européens en invoquant une nouvelle évaluation des risques au Burundi, pays toujours en proie aux violences armées liées à la crise politique. Réaction similaire de la Belgique. L'ex-puissance coloniale a aujourd'hui recommandé à ses ressortissants de quitter le pays, faisant état des propos hostiles à la Belgique et des menaces à l'encontre des ressortissants belges. Au sujet de la résolution adoptée hier soir par le Conseil de sécurité de l'ONU, et le gouvernement et l'opposition burundais se sont dit satisfaits. Pour l'opposant Jérémy Minani, le régime de Bujumbura n'a rien compris à cette résolution qui le menace, dit-il, de sanctions et de l'envoi de casques bleus. Pour sa part, le ministre des Relations extérieures, Alain-Aimé Niamitwe, se dit agréablement surpris car le texte final, ajoute-t-il, est plus équilibré et ne brandit plus la menace de sanctions.
La Centrafrique vit à nouveau un cycle de violences intercommunautaires. Fin octobre 2015, Bangui a connu de nouveaux affrontements, des violences qui se sont propagées en province, dans les villes de Batangafo et Bambari. C'est dans ce climat que le pays s'apprête à accueillir le pape François à la fin du mois. Tatiana Mosso.
Il reste moins de 15 jours au service d'ordre pour résoudre le casse-tête sécuritaire. Le pape François est attendu les 29 et 30 novembre. La France a lancé un avertissement à peine voilé, disant que c'est une visite risquée au plan sécuritaire. Mais les autorités de la transition souhaitent la venue du souverain pontife. Les dirigeants politiques et religieux de la République centrafricaine cherchent à rassurer le Vatican sur la sécurité du pape avant sa visite. Une visite à la symbolique forte. Depuis décembre 2013, la population est victime d'un conflit entre les rebelles musulmans et des milices chrétiennes. Depuis fin septembre, les violences ont fait plusieurs dizaines de morts rien que dans la capitale Bangui. Le pays doit tenir des élections le mois prochain. Un responsable de l'ONU a déclaré que la mission de paix en Centrafrique prévoit d'ajouter 750 soldats et 140 policiers. Cette semaine, la France a déclaré qu'elle suspendait temporairement le retrait de ses troupes.
République démocratique du Congo, l'opposant historique Étienne Tshisekedi est prêt à rentrer au pays pour participer au dialogue national voulu par le président Joseph Kabila en vue d'élections apaisées. Et c'est ce qu'a annoncé son parti, l'UDPS, à l'AFP. L'octogénaire en convalescence à Bruxelles demande toutefois que ce dialogue se tienne sous l'égide de la communauté internationale.
La peine de 12 ans de prison de l'ex-chef de milice congolais Germain Katanga a été réduite à 8 ans et 4 mois, notamment pour sa bonne conduite. C'est ce qu'annonce la Cour pénale internationale, précisant que sa libération anticipée aurait donc lieu le 18 janvier. Monsieur Katanga, 37 ans, avait été jugé coupable de complicité dans l'attaque d'un village du nord-est de la RDC, attaque qui fait environ 200 morts. Et il a publiquement assumé la responsabilité de ses crimes et exprimé ses regrets pour le préjudice causé aux victimes.
L'Afrique du Sud frappée par sa pire sécheresse depuis plus de 30 ans. 5 des 9 provinces du pays ont donc été déclarées en état de catastrophe naturelle.
En Afrique du Sud, toujours, les étudiants de la prestigieuse université sud-africaine de Stellenbosch ont obtenu que les cours soient donnés en anglais et non plus en afrikaans, la langue de la majorité blanche qui avait instauré l'apartheid. Cela faisait des mois qu'ils exigeaient ce changement.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'armée américaine a mené hier soir un raid aérien dans l'est de la Syrie visant Jihadi Jones, un Britannique du groupe État islamique, visible sur des vidéos exécutant des otages occidentaux. La mort du bourreau, n'a pas été confirmée, mais d'ores et déjà, les alliés renouvellent leur promesse d'en finir avec l'organisation. Salwa Jafari.
We are still assessing the results of this strike.
Nous sommes toujours en train d'évaluer les résultats de cette attaque, mais les terroristes associés à Daesh doivent savoir ceci. Vos jours sont comptés et vous serez vaincus. Il n'y a pas d'avenir, il n'existe aucune issue pour Daesh qui ne mène pas à son élimination et à sa destruction.
C'était le secrétaire d'État américain John Kerry depuis Tunis. Selon le Pentagone, le bombardement a eu lieu à Raqqa, capitale de l'organisation qui occupe la moitié du territoire syrien. Selon la chaîne d'information CNN et le quotidien Washington Post, la cible avait été repérée il y a plusieurs jours par le renseignement américain. L'Observatoire syrien des droits de l'homme donne plus de détails. Jihadi Jones était dans une voiture en compagnie de 3 autres passagers. Le bourreau masqué, l'incarnation de la cruauté de Daesh, est citoyen britannique. Il a pris part aux vidéos montrant les meurtres de plusieurs otages. Mohamed Amouazi, de son vrai nom, était programmeur informatique. Il est né au Koweït en 1988 d'une famille d'origine irakienne.
Au moins 19 morts et plus de 30 blessés, bilan d'un attentat suicide à la bombe lors des funérailles d'un combattant chiite à Bagdad. La victime faisait partie d'un groupe soutenu par le gouvernement irakien. Aucune revendication pour le moment, mais les autorités soupçonnent le groupe terroriste État islamique.
À la veille des pourparlers de Vienne sur la Syrie, le président russe Vladimir Poutine a déclaré ce vendredi qu'il ne se sentait pas le droit de demander au président syrien Bachar al-Assad de quitter le pouvoir. La conférence de Vienne, à laquelle participeront une vingtaine de pays et des institutions internationales, doit fixer les grandes lignes d'une transition politique en Syrie. La Russie et l'Iran continuent de soutenir le régime de Bachar al-Assad, alors que les États-Unis et leurs alliés occidentaux veulent son départ.
Le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce vendredi en Tunisie, berceau du printemps arabe. Il a promis un appui américain à la jeune démocratie. Bagassi Koura.
Oui, John Kerry a réaffirmé le soutien des États-Unis à la jeune démocratie tunisienne dont Washington veut le succès. Le dialogue stratégique auquel il a pris part est destiné à consolider le partenariat, notamment financier, entre les deux alliés. Selon l'AFP, M. Kerry a souligné que l'aide américaine avait atteint plus de 700 millions de dollars depuis la révolution de 2011. Pour son homologue tunisien, ce deuxième dialogue stratégique après celui de 2014 a permis de discuter des perspectives de coopération au niveau sécuritaire, militaire et économique. Durant sa visite de quelques heures, M. Kerry s'est aussi entretenu avec le président Beji Caïd Essebsi. Après cette visite de quelques heures, M. Kerry se rend à Vienne pour le second round des discussions sur la Syrie. Il va boucler sa tournée par le sommet du G20 à Antalya, en Turquie.
Deux Israéliens ont été tués par balles ce vendredi après-midi au sud de Hébron, en Cisjordanie occupée. Les auteurs de l'attaque ont pris la fuite et des recherches sont en cours pour les retrouver, indique l'AFP, citant l'armée et la police. Cette apparente embuscade intervient dans un contexte de tension accrue entre Israël et les Palestiniens.
Au Yémen, des témoins rapportent la mort de 2 personnes dans l'explosion accidentelle d'une bombe à l'entrée d'une mosquée. L'incident s'est produit au nord de la capitale, Sanaa. Les attentats contre les mosquées fréquentées par des chiites dans le nord du pays sont fréquents. Depuis mars, une coalition internationale menée par l'Arabie Saoudite cherche à déloger les rebelles chiites houthis qui contrôlent Sanaa et d'autres territoires. Plus de 5000 personnes ont déjà trouvé la mort durant cette campagne. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Commençons avec la bonne santé du pétrole camerounais. Le pays a franchi la barre des 100 000 barils par jour au premier trimestre. 16,44 millions de barils de pétrole entre janvier et juin ont été produits, d'après les derniers chiffres publiés par la Société nationale des hydrocarbures, la SNH. Des chiffres en hausse de plus 22,79% par rapport au premier semestre de l'année dernière. Une tendance qui devrait se confirmer et atteindre son apogée en 2016 avec 57 millions de barils. Au Burkina Faso, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, a accordé un prêt de 9 millions de dollars pour le financement de l'université Ouagadougou. Cette opération porte à 253 millions de dollars les engagements totaux de la BADEA au Burkina Faso pour une soixantaine de projets financés. L'université de Ouagadougou propose des formations en droit, en sciences politiques, en économie et en gestion. Et après les travaux, elle devrait pouvoir mieux accueillir ses 40 000 étudiants. La BADEA est détenue par 18 pays membres de la Ligue arabe. À Madagascar, des progrès pour la lutte contre le travail des enfants dans la filière vanille. Il serait 20 000 employés dans la filière de la vanille dans la région Sava, selon l'Organisation internationale du travail. Un code de conduite de lutte contre le travail des enfants, en collaboration avec l'OIT, a été signé à Saint-Bave, la capitale de la Sava, par une vingtaine d'opérateurs. Les enfants travaillent 7 à 8 heures par jour, la nuit aussi, avec des salaires misérables et sont de plus exposés à des produits chimiques toxiques et donc dangereux. Selon l'Organisation internationale du travail, il convient toutefois de rester prudent et faire un bilan dans 2 ans.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Anastasie.
Le Monde aujourd'hui, c'est aussi les sports. Nicolas Pineau est en studio. Salut Nicolas.
Bonsoir.
Nous allons tout d'abord parler de Russie 2018, éliminatoire pour le Mondial dans la zone Afrique. Comment ça se passe?
Eh oui, c'est du football. Hein. Le deuxième tour aller se poursuit. Le Sénégal à Tananarive pour affronter Madagascar. Les Lions de la Teranga ont été tenus en échec de partout malgré 2 buts de Mambiram Diouf et de Sadio Mané. Autre surprise, le match nul 0-0 du Ghana concédé à Moroni face aux Comores. Le Cameroun, sans souci, s'impose à Niamey 3-0 face au Ménat du Niger. Vincent Aboubakar et Stéphane Béa, buteurs. La Côte d'Ivoire qui joue en ce moment même contre le Libéria, match en cours. Syriac a ouvert le score en début de seconde mi-temps, pour le moment 1-0 pour les éléphants. L'Angola qui chute à domicile 3-1 face à l'Afrique du Sud. Et puis actuellement, le match en cours, Mauritanie-Tunisie 0-0, même score entre le Swaziland et le Nigeria.
Vraiment des surprises, Nicolas, le Sénégal et également le Ghana, on ne s'y attendait pas. Autre match attendu, le choc de l'Amérique latine.
Le super classico entre l'Argentine et le Brésil, hein, comptant pour les qualifications du Mondial 2018, il a été reporté à ce vendredi en raison des conditions météorologiques régnant sur Buenos Aires. C'est ce qu'a annoncé la Fédération argentine. Le match, vous le savez, devait initialement débuter hier, mais des trombes d'eau se sont abattues sur le stade Monumental et le terrain était impraticable. On rappelle que l'Argentine, privée de Lionel Messi, blessée et 7e de cette zone, le Brésil qui enregistre le retour de suspension de sa star Neymar est 5e.
Et il faut dire aussi que l'Équateur a déjà remporté 3 victoires d'affilée, 9 points, bravo pour les Équatoriens. Parlant de dopage dans l'athlétisme, la Russie suspendue à la décision de l'IAF.
Oui, privé, les athlètes russes des Jeux Olympiques ou des Mondiaux seraient stupides, c'est ce qu'a lâché le ministre russe des Sports. Il s'agit du dernier plaidoyer pour son pays, accusé, vous le savez, de dopage organisé avant le vote de la Fédération Internationale d'Athlétisme sur une suspension de la Russie de toute compétition d'athlétisme, et ce à 9 mois des Jeux Olympiques d'été de Rio. La réunion doit débuter à 18h temps universel à Monaco, où une visioconférence entre les 27 responsables est programmée. Sébastien Coe, le président de l'IAF, participera à cette réunion depuis Londres.
Et en basket, la NBA, les résultats de la soirée?
Pour la première fois dans son histoire, Golden State, le champion en titre, a remporté les 10 premiers matchs d'une saison NBA après son succès la nuit dernière contre Minnesota, 129 à 116, grâce encore une fois à son joueur, le champion Stephen Curry, qui a marqué, chérubin, 46 points. En revanche, rien ne va plus toujours pour une équipe de l'Ouest, les Clippers de Los Angeles, qui se sont lourdement inclinés à Phoenix, 118 à 104.
Et je ne sais pas comment se porte mon équipe, San Antonio et Tony Parker. Et...
Pour le moment, ça va plutôt bien avec les trois, Tony Parker, Manu Ghibli et évidemment Tim Duncan. On se souvient qu'ils sont maintenant le trio le plus performant de l'histoire de la NBA avec plus de 500 victoires à eux trois à leur actif.
Ça, il faut le faire. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et Chérubin Orsi dans votre compagnie. Place maintenant au dossier du jour. Première escale, le Niger.
En exil depuis plus d'un an en France, l'ancien président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou, annonce son retour à Niamey ce samedi. Sous le coup d'un mandat d'arrêt relatif à un trafic de bébés dans lequel il est cité avec l'une de ses épouses, le candidat déclaré à la présidentielle de 2016, risque une arrestation dès sa sortie de l'avion. Nicolas Pinault a joint Moussa Askar, directeur de l'événement, le journal nigérien qui avait révélé l'affaire.
Moi, j'y crois parce que selon les dernières informations, il a pris son billet Air France pour rentrer demain à Niamey à 15h30, heure d'arrivée de l'avion à destination de Paris. Et il a décidé de rentrer parce qu'il y aurait une plainte en France contre lui, dont nous avons fait cas dans notre livraison d'hier. Et en plus, il a décidé de rentrer parce que, dit-il, il a annoncé plutôt que le mandat d'arrêt contre lui est caduque du fait que le juge a été dessaisi du dossier. Il affirme aussi qu'il rentre parce que maintenant, il pense que c'est un candidat qui vient affronter les échéances de 2016 où il sera un des challengers du président Issoufou.
Pensez-vous qu'il sera arrêté dès son arrivée sur le sol nigérien ?
Absolument. C'est le ministre de l'Intérieur qui a affirmé qu'il sera arrêté dès qu'il mettra pied au Niger. Mais il se trouve aussi qu'un dispositif, selon les informations d'une des fois, un dispositif sécuritaire a été mis en place de quand Mamadou foulera le sol nigérien et qu'il soit arrêté et mis dans les mains du procureur relativement à l'affaire de bébés importés dont il est présumé coupable.
Est-ce que selon vous, cette affaire de trafic de bébés est crédible ?
Absolument. Lorsque nous avons fait notre enquête au niveau du Nigeria voisin et aussi du Bénin, nous avons trouvé qu'il y a des personnalités qui sont impliquées dans ce trafic de bébés. C'est suite à nos investigations que le juge s'est saisi du dossier. Ses épouses qui n'arrivent pas à procréer, elles ont trouvé le créneau d'aller acheter des bébés pour venir à Niamey, leur donner leur nom pour une question d'héritage.
Est-ce qu'aujourd'hui, en vue de la présidentielle de 2016, Mahamadou Issoufou, le président, a vraiment un adversaire politique en ce moment au Niger ?
Non, pas du tout, parce que si vous regardez la configuration politique de tous les partis qui sont en lice, et tous traversent des crises, et la plupart d'entre eux sont divisés. Donc, c'est un boulevard qui a été créé pour Issoufou en 2016. Le président Issoufou sera élu dès le premier tour, c'est au vu de la configuration politique actuelle.
Moussa Askar, joint à Niamey.
La Voix de l'Amérique au Niger sur Enfani FM à Niamey, Zinder et Agadez, et sur Radio Dalol FM à Dongondouchi.
De Bruxelles, où il est en convalescence, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi annonce son retour en RDC en vue de participer au dialogue national. Une bonne partie de l'opposition refuse d'y participer, accusant le pouvoir de manœuvre pour permettre au président Kabila de briguer un troisième mandat que la Constitution lui interdit. Eddy Sango a joint son porte-parole Bruno Tshibala.
Oui, le président, élu président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Mulumba, rentre dans les tout prochains jours à Kinshasa pour conduire la délégation de l'UDPS au dialogue politique. Il vient de nous les confirmer au cours de différentes séances que nous venons d'avoir avec lui lors de notre séjour à Bruxelles où nous avons été reçu son invitation pour passer en revue la situation du parti et la situation générale du pays qui est, comme vous le savez, dominé par la question du dialogue politique.
Mais il n'y a pas très longtemps que M. Tshisekedi a rappelé les membres de son parti qui étaient en négociation avec le gouvernement et a mis fin aux négociations en vue du dialogue.
Il n'a pas rappelé les membres au dialogue qui n'a pas encore commencé. Il y a des précontacts qui avaient été initiés entre nous, l'UDPS, et la majorité présidentielle pour déblayer le terrain. Mais lorsque les amis amis avaient cherché à aborder des questions qui ne pouvaient pas être discutées au niveau du pré-dialogue. Le président avait estimé devoir arrêter les contacts au niveau du pré-dialogue. Mais en même temps, il a lancé un appel à toutes les forces du changement pour qu'elles puissent rejoindre l'UDPS afin d'exiger la tenue d'un dialogue politique qui devrait s'assigner comme objectif de résoudre la crise et d'avoir un consensus sur le processus électoral en cours.
Et quels sont justement ces points que le pouvoir avait essayé d'aborder lors de ses préparatifs pour le dialogue?
Non, il était question de se mettre d'accord sur la question du format. Nous voulons que ça soit un format réduit. Nous avons proposé 20-20 et nous souhaitons qu'avec un nombre réduit, on pourrait réfléchir profondément et trouver des solutions rapidement à la crise. Et en dehors du format, il y a le calendrier électoral, il y a l'audit du fichier, il y a l'enregistrement de nouveaux majeurs, ainsi que la participation à la situation politique.
Il y a une bonne partie de l'opposition qui ne veut pas de ces dialogues. Ne craignez-vous pas d'aller dans le sens du Congo-Brazzaville ou en fin du dialogue?
Ici, les choses sont tout à fait claires. Nous nous référons à un instrument juridique international qui est l'accord cadre d'Addis Abeba.
Eddy Issongo et a interviewé Bruno Tshibala. Il est le porte-parole de M. Tshisekedi.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'Afrique centrale fait face depuis quelque temps à la menace terroriste. Le libre-échange ainsi que la libre circulation des personnes et des biens entre les États de la zone CEMAC sont ainsi mis à mal. De Yaoundé, le reportage de Moki Edwin Kinzeka.
L'intégration sur-régionale, c'est l'effet pour les pays d'une sur-région de briser les frontières. Chantal Elombat, directeur de la coopération et de l'intégration en Afrique au ministère camerounais de l'économie, présente l'état de lieu en Afrique centrale.
Tout le monde a constaté que les choses vont un peu lentement et il faudrait faire prendre conscience à tous les 6 états de la CEMAC qu'il faudrait peut-être faire des efforts pour aller un peu plus vite. Vous avez ces 4 pays, Cameroun, Centrafrique, Tchad et Congo-Brazzaville, qui ne demandent plus de visa. Nous avons encore 2 pays qui ne sont pas nécessairement réfractaires à cette libre circulation, mais souhaitent s'entourer de beaucoup de sécurisation de leur territoire.
Que pensent les jeunes Camerounais?
Comme on dit vulgairement, l'union fait la force. C'est en circulant librement, c'est en allant chez le voisin librement qu'il peut avoir cette communication limpide qui permettra donc le développement.
C'est bien, intégration sous-régionale au niveau de la sécurité, mais c'est qu'il y a également aussi des inconvénients. Peut-être sur les soldats tchadiens, par exemple, qui arrivent ici au Cameroun, est-ce que le gouvernement camerounais ne donne pas quelque chose en retour?
Depuis sa création, les États membres de la CEMAC cherchent comment mettre en place la libre circulation avec peu de succès. Mais qu'est-ce qui bloque? Pierre Moussa, chargé de l'intégration à la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC.
Les États, naturellement, se battront pour être toujours pleinement souverains. Et la communauté voudrait que l'intégration avance. Quelque part, quelqu'un doit lâcher aussi du lest. Le marché commun signifie qu'il y a une union douanière. Les marchandises circulent librement et avec un tarif extérieur commun. Le deuxième pilier, c'est la libre circulation des personnes.
Certaines régions africaines comme l'Afrique de l'Ouest et du Sud ont déjà instauré la libre circulation des personnes et des biens. Chantal Elombat nous donne quelques propositions.
Il y a des blocages, il y a des pannes, il y a des peines, mais je pense que progressivement nous allons y arriver. Pourquoi nous ne ferons pas comme les autres? Toute l'Afrique pourra, dans un avenir pas très lointain, commercer ensemble, circuler comme on veut. Et je crois que c'est comme ça que l'Afrique explosera.
Moki, Edwin Kinzeka, VOA Afrique, Yaoundé.
La Voix de l'Amérique au Cameroun sur Océan FM à Douala, Limbé et Kumba. La Voix de l'Amérique sur Radio Batcham,
Abba Foussam.
Après une longue journée de débats, les députés maliens ont voté dans la nuit la loi des quotas en faveur des femmes. Cette loi, reportée maintes fois, a été votée par 115 voix, 22 contre et 3 abstentions. Donc 115 voix pour. Désormais, les femmes vont bénéficier d'un quota de 30% pour l'accès aux postes électifs et nominatifs. Nathalie Barge a recueilli la réaction de Nana Sanou, secrétaire générale du Réseau des femmes africaines, ministre et parlementaire.
Je suis ravi d'être comme beaucoup d'autres Maliens parce que ça fait près de 10 ans qu'on était en train de chercher le quota au niveau du Mali. Il y a des pays qui l'ont commencé bien après nous et qui ont réussi à aller au quota ou bien à la parité. Donc vraiment, je suis ravi que je pense que ce projet de loi est un projet consensuel parce que, après seulement les dernières rencontres qu'on a eues avec l'Union des femmes musulmanes du Mali et l'association Sabatique pour discuter de ces points-là et pour accorder nos violons par rapport à l'adoption de ce projet de loi.
Comme vous l'avez dit, cela a été un long chemin et vous avez été l'une des grandes initiatrices de ce projet. Qu'est-ce que cela représente pour les femmes maliennes et voire pour le Mali même, pour le pays?
Cela, pour nous, en tant que femmes maliennes, c'est beaucoup de choses parce que depuis 1992 que nous sommes en démocratie, tout le monde se plaint de la sous-représentation des femmes à quelques niveaux de décision que ce soit. Donc ce projet de loi va nous permettre d'améliorer la représentation des femmes à tous les niveaux de la prise de décision. Et nous savons que ce n'est pas par incompétence que les femmes ne sont pas là souvent, mais souvent c'est par d'autres obstacles que les femmes ne sont pas là. Et pour le Mali même, c'est un grand pas aussi parce que le Mali a toujours été pointé du doigt parce que le Mali n'avait pas de loi encore par rapport à la représentation du genre. Donc je crois qu'au double niveau, c'est vraiment salutaire.
Alors, la loi a été votée hier soir et les milieux islamistes ont aussitôt réagi comme de coutume. Alors comment s'annonce le nouveau bras de fer entre féministes et musulmans conservateurs?
Ce qui est sûr, depuis hier qu'on a fini le vote du projet de loi, on a appris que depuis hier, la matinée, il y a des radios islamiques qui se versaient déjà à donner de mauvaises informations. On a pensé qu'avec le vote du projet de loi, ça allait se finir, mais on s'est rendu compte que aujourd'hui, ça continuait. Et nous avons appris qu'ils disent qu'ils vont s'organiser pour faire une marche de mardi. Et moi, personnellement, je dis, on est tous maliens. On est tous soit des musulmans, des catholiques ou des protestants. Et le Mali, c'est une république laïque. Donc, nous disons, si un projet de loi est voté par tous les pays, les représentations nationales, l'Assemblée nationale, moi, je dis cette fois, si les gens s'évertuent à protester par des marches ou des meetings, nous aussi, en tant que femmes, nous allons nous organiser, même si la loi n'est pas typiquement loi pour les femmes, on va s'organiser pour dire que nous, on serait un citoyen malien, mais nous pensons que ce projet de loi n'a rien de contre en soi qui va à l'encontre de la religion, d'une des religions au niveau du Mali. Donc vraiment, cette fois-ci, je crois qu'on va s'organiser, aussi on va manifester pour dire au niveau de l'État que si les gens là sont là, nous aussi, nous sommes là en tant que femmes.
Nana Sanou, ancienne députée, et membre de la plateforme des femmes leaders du Mali, jointe à Bamako.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Aujourd'hui, reggae music, reggaeton bien sûr, pour les amis qui adorent aussi la salsa. Et aussi nous allons continuer avec notre sujet de cette semaine, vos points de vue dans RM Show. Envoyez-nous aussi vos réactions par SMS au plus 225-58-92-8540. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show. Appelez-nous aussi au 001-202-619-31-40. RM Show, c'est chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde de Lionel Gaïma, présentation Morgane Guiriec et Chérubin Kaby d'Orsil.
On remercie notre ami Volarich à la console. Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. N'oubliez pas aussi de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso. et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, le monde aujourd'hui sur VOA Afrique.